des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est Clotilde, Clotilde Seille qui vous parle en direct du studio, on va dire presque en direct, du studio, du chic studio montréalais de Canal M, la radio de Vues et Voix. Ravie de vous retrouver une fois encore pour vous présenter des livres audio qui vous sont accessibles absolument gratuitement, soit via le SQLA, soit via CAEB et même peut-être via d'autres liens dont nous parlons à l'occasion et qui sont situés en Europe, mais qui vous permettent d'élargir le spectre de vos lectures. Alors aujourd'hui à l'émission, je vais recevoir Jean-Daniel Aubin, qui va nous parler d'un livre d'horreur. En tout cas, on va y avoir des morts, ça c'est sûr. Je vais ensuite m'entretenir avec Gilles Archambault. Oui, le Gilles Archambault du jazz et de la littérature, quelqu'un à qui je voue un respect énorme. Nous allons recevoir Luc Mercure et puis je vais rendre un hommage à Philip Roth. Ok, Roth, je vais l'appeler Roth. Ok, d'accord, ce sera mieux. Alors, on commence donc avec ce roman de Patrick Senecal. Je sais que parmi les auditeurs, il n'y a pas que Jean-Daniel Aubin qui soit un mordu de littérature, un petit peu sanglante, il faut bien le dire quand même. Bonjour Jean-Daniel.
Bonjour Clotilde.
Alors Jean-Daniel, il y aura des morts, nous promet Patrick Senecal dans ce livre-là. Est-ce que c'est vrai?
C'est du Patrick Senecal.
Tout craché, hein?
Tout craché. Donc, moi, j'étais resté vraiment au sommet de toutes mes émotions avec l'autre reflet. Mais là, avec celui-là, je me disais, bon, il n'arrivera pas à me surprendre. Mais oui, il me surprend. Ouais,
wow!
Ouais, tout à fait. Et il y en a des morts.
Et dans quoi vous surprend-il le plus? En quoi vous surprend-il le plus?
C'est dans l'imaginaire, donc c'est dans la progression et aussi dans l'espèce de violence qu'il va chercher en nous, qui est bien cachée au fond, qu'on ne veut pas sortir, mais à travers son livre, on se dit non, je ne veux pas aller là, mais on est comme devant un film d'horreur, on ne veut pas regarder, mais on rouvre les doigts pour voir qu'est-ce qui se passe. Bon, il y aura des morts, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'histoire de Cal Mongeau.
Oui.
Il a une vie tranquille.
Oui.
Il a son petit bar à Drummondville. Il vit bien. Il espère reconquérir sa femme, Pascal. Mm-hmm. Mais à part de ça, tout va bien pour lui. Jusqu'au jour où il y a une femme... il y a toujours des belles femmes étranges dans les livres de Patrick Senecal.
Oui, et chez d'autres aussi, oui. Alors, donc, il y en a une qui rentre dans son bar.
Oui, ouais. Et qui lui dit qu'elle est très belle, grande, avec un chignon espagnol derrière la tête, habillée tout en blanc.
Il ne faut peut-être pas dire ce qu'elle va lui dire. Parce que ce qu'elle va lui dire, ça va lui changer la vie.
Oui, parce qu'elle lui dit, aujourd'hui, vous allez mourir.
Oui.
Et à partir de là, je pense que c'est une folle, tout simplement. Mais dès qu'il arrive chez lui, la folie commence. Donc, c'est une escalade, c'est une chasse à l'homme, mais pas avec des tueurs à gages professionnels. C'est un jeu qu'elle a créé sur un site qui s'appelle elle.com, et c'est un peu n'importe qui. Il y a eu 8 personnes qui étaient choisies pour assassiner Carl. Il y a un commanditaire, mais ça peut être n'importe qui. Il y a un junkie, il y a un Italien, il y a un gros noir, il y a un itinérant, donc c'est un peu un homme de science, donc un père de famille qui ferait n'importe quoi pour payer une opération à son fils. Donc il y a des gens, et entre eux, ils peuvent s'éliminer parce que c'est la personne qui va éliminer Carl qui gagne.
Ah mon Dieu!
Donc lui... Il est pourchassé. Il faut qu'il trouve le moyen de fuir tout le temps, d'éviter ces gens-là. Et il va découvrir qu'il y a un émetteur en lui qui permet à cette femme-là, Diane, de pouvoir savoir où il est en tout temps et de le communiquer au tueur.
Oui.
Donc, la chasse se poursuit. Il y a la possibilité aussi de découvrir qui est le commanditaire. Et s'il élimine le commanditaire, ben à ce moment-là, la chasse s'arrête.
Mm-hmm.
Ou s'il tue tous les chasseurs, la chasse s'arrête.
J'imagine que c'est un livre qu'on a du mal, pour les voyants, à mettre sur la table de chevet. Pour vous, non-voyants, à arrêter. On se dit, oh non, encore une page. On a encore une page. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez aussi, Jean-Daniel?
Tout à fait.
Oui, hein?
Surtout quand c'est bien lu.
Oui.
Et le lecteur, c'est quelqu'un qu'on retrouve souvent dans des livres de Patrice Sénécal,
oui.
Et dans ce genre de polar.
Oui.
Et c'est très bien lu avec les émotions. Et donc, moi, j'arrive jamais. Je me dis, oh non, je vais attendre.
Vous décrochez pas, hein?
Oui, un autre chapitre. Mmh. Un autre chapitre. Mmh. Et ça va jusqu'à un moment donné. Il se déplace, il arrive à Montréal et il se retrouve, malgré lui, dans une espèce d'entrepôt qui est loué par cette espèce de compagnie L.com,
mm-hmm.
où c'est des millionnaires qui sont membres.
Oui.
Et il y a comme un jeu à l'intérieur de ça que les gens assistent, sont une soixantaine.
Oui, oui.
Et c'est une compétition sexuelle sur un stage.
Ouf!
Mais de sadomaso. Et c'est là que lui se dit, oh non, qu'est-ce que je fais ici?
Ben oui, je comprends.
Je peux pas voir ça, mais il regarde quand même.
Ah, c'est fou parce que, vous savez, j'avais reçu un Patrick Sonnecal ici à l'émission des livres pleins les oreilles. Et ce type, il est charmant. Si j'osais, je dirais, c'est une poésie ambulante.
Mais je suis certain.
Ah, mais alors tout ce qu'il a au fond de lui, par exemple, bon, je ne sais pas si on peut dire la même chose de Stephen King, qui est son dieu d'ailleurs, bon, c'est fou cette imagination-là, hein, et cette écriture-là, parce qu'il écrit bien Patrick Sonnecal. Hein?
Ah, mais moi je l'aime parce que c'est super bien écrit, puis il nous amène à découvrir en nous ces émotions-là, parce qu'on vit toutes les émotions.
Ouais.
On vit la tristesse, parce qu'on devient forcément le personnage principal.
Ben oui, qui est pourchassé, qui est... Enfin, c'est...
Donc, on est vraiment lui. Donc, on vit la tristesse, le dégoût, la haine, la violence. Et lui, il découvre la violence qu'il ne sait pas qu'il a en lui profondément. Puis il la découvre malgré lui. Il faut qu'il la découvre s'il veut rester en vie.
Ouais.
Et comme toutes les autres Patrick Sénécal, c'est ça, il y a un côté très accrocheur.
Mm-hmm.
Et comme vous dites, il y a une forme de poésie là-dedans.
Ah oui?
Et moi, je me dis aussi, dans ces livres, et surtout L'autre reflet et celui-là, la limite du génie à la folie.
Ah oui, hein?
Oui, c'est comme à quel point une personne comme cette femme-là, Diane, peut être si en contrôle d'elle-même, intelligente, mais c'est une psychopathe.
Ce que vous voulez dire, c'est que la frontière entre le génie et la folie est très mince,
est très
ténue, hein, c'est ça.
Pour être psychopathe comme elle est, il faut vraiment qu'elle soit intelligente. Mm.
Et pourquoi lui? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce type-là? Est-ce qu'on révèle trop de choses ou est-ce que c'est dû au hasard?
Non, c'est pas dû au hasard. Elle, c'est quelqu'un qui a mis la tête à prix à Carl. Donc, c'est un commanditaire.
OK. Et c'est la façon qu'elle a trouvée, quoi?
Non, elle, c'est son jeu. Ah. Et c'est lui qui ne pouvait pas se payer des tueurs à gages. Donc, parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Donc, cette personne-là a choisi ce jeu-là parce que ça coûte juste 2 000 $. Il va voir sur son écran d'ordinateur parce que chaque tueur a une caméra après lui et il filme tout. Donc, lui, il est observateur sur son écran. Donc, il voit tout ce qui se passe.
Donc c'est un tueur qui a commandé ce jeu pour assassiner ce type-là qui a l'air d'un bon homme, quoi.
C'est pas un tueur, le gars qui...
Non, c'est ça.
Le gars qui fait ça, c'est parce qu'il y a un intérêt.
OK, d'accord. Ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas parce qu'il faut quand même, faut quand même laisser à notre auditoire le soin d'aller entendre, d'aller écouter ce livre-là pour en connaître la fin.
Et d'ailleurs, on le découvre avec Carl.
Oui.
Dans le dernier chapitre. Il faut vraiment se rendre jusqu'à la fin.
Ah, ben oui, il faut.
Pour le découvrir qui est le commanditaire. On a des doutes tout le long.
OK.
On doute de ses amis, on doute de sa femme, on doute de son fils, on doute de tout le monde.
C'est très complexe à écrire, sûrement, un bouquin comme ça, parce que ça en représente du monde.
Oui, ben, il y a beaucoup de recherches.
Ah, énormément, j'imagine.
Il y a beaucoup de recherches au niveau médical, il y a beaucoup de recherches au niveau policier, il y a beaucoup de recherches, oui, il y a beaucoup de recherches, c'est incroyable.
Jean-Daniel, on va se laisser là-dessus, parce que vous savez comment c'est, là, le temps file, et puis d'autres invités se bousculent à ma porte, comme tous les jours.
Oui, ben, en tout cas, moi, je le recommande à ceux qui veulent être bouleversés. Ouais.
Bon, eh bien, c'était ce que je voulais entendre et j'en suis vraiment ravie. On va rappeler le titre du livre « Il y aura des morts » de Patrick Senecal. Et je vous remercie beaucoup, Jean-Daniel, d'avoir participé encore à quelques reprises à cette émission cette saison. Je vous dis ça parce que c'est l'avant-dernière, donc maintenant, ben, on verra la nouvelle saison, mais j'imagine qu'on se reparlera.
Ah oui, je vais avoir le temps de dire encore, oui.
D'accord. Alors, je voudrais vous dire à vous, mais aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent, qu'on va encore parler de mort, mais vraiment d'une autre façon, avec Gilles Archambault, où il sera question également d'espoir, mais aussi de désespoir. Sur un petit air de jazz, c'est le nom du recueil de nouvelles dont il va venir nous parler, mais avant, une musique, une de ces musiques qui le font brailler à chaque fois qu'il l'entend. C'est une musique importante dans la dernière nouvelle de son recueil. C'est une musique que vous aimez aussi. C'est la chanson qui est tirée du film Casablanca, As Time Goes By, interprétée par le pianiste et par le comédien qu'on voit dans le film. Alors le son est peut-être pas si terrible que ça, mais la chanson, elle, est à tomber par terre.
Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome.
Ça va, Gilles Archambault?
Oui. Non, ça me rappelle évidemment des souvenirs, un film que j'ai vu et revu plusieurs fois. Et c'est évident que celui qui chante est un pianiste de bar.
Oui.
Et c'est la pièce, la chanson qu'il interprète a été reprise maintes et maintes fois par des jazzmen.
Oui.
Et c'est plutôt là, évidemment, que je trouve mon inspiration. Mais il y a un côté nostalgique dans tout cela qui me convient parfaitement.
Et en plus, moi maintenant, qui ai lu, dévoré votre recueil de nouvelles, je ne peux m'empêcher de voir, d'imaginer ce petit vieux qui monte Beaver Hall, à la rencontre de quelqu'un qu'il ne reverra plus jamais, sans doute. Et c'est une des nouvelles les plus touchantes, mais en fait, elles le sont toutes, de ce recueil de nouvelles dont nous allons parler aujourd'hui. Ça s'appelle « À peine un petit air de jazz ». Si je vous dis, Gilles Archambault, que lorsque j'évoque votre nom, pour moi, ça m'évoque plus le jazz que l'écriture. Est-ce que ça vous dérange?
Pas du tout, parce que ça arrive fréquemment. Vous voyez, je suis un vieux monsieur, j'ai 84 ans, j'ai passé toute ma vie à Radio-Canada, une bonne partie de ma vie à Radio-Canada, je l'ai passé en faisant entendre du jazz. Et non, pas du tout. Moi, vous savez, je suis bourré de défauts, mais j'ai pas le désir de devenir célèbre ou je ne sais pas quoi. Et je suis, plus j'avance dans la vie, plus je suis persuadé que quand on écrit, c'est déjà la grande chance que l'on a eue d'écrire, deux, de trouver un éditeur qui accepte de vous publier. Ce qui arrive après, ça vous échappe. Et je n'ai pas de mépris, parce que c'est un terme que j'aime pas, une réalité que je n'aime pas, le mépris, mais je trouve qu'ils font pitié, ceux de mes collègues qui s'imaginent important d'imposer leur personne plutôt que leur livre. Et je trouve pitoyable aussi ceux qui parlent à propos de leur livre, de leur œuvre. Je pense que tout cela est dans un domaine tellement fragile. Et ça donne quoi? Une vie humaine, ça dure un nombre d'années, c'est tout. La pérennité littéraire, personne n'en est sûr. Et de toute manière, à votre mort, qu'est-ce qui reste?
Ben, les écrits?
Oui, mais je veux dire, il ne faut pas s'imaginer que je n'ai jamais écrit pour faire de la peine aux gens, en un mot, et je savais que le genre d'écrit dont j'étais capable n'était pas empreint d'un enthousiasme fou, si vous voulez. Mais je n'accepte pas qu'on dise, je tolère mal qu'on dise de mes textes, de mes écrits, qu'ils sont pessimistes, d'après moi. Ils sont même pas réalistes. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien compris à la vie. Vous savez, le terme d'absurde qu'on a tellement employé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour qualifier Camus, Sartre et tout ça, c'est tout à fait mon domaine. Moi, je pense que la vie est une aventure merveilleuse dans laquelle on ne comprend à peu près rien. C'est le mystère qui compte. Ceux qui s'imaginent comprendre, d'après moi, la plupart du temps s'illusionnent ou ils ont eu beaucoup de chance dans la vie de pouvoir entreprendre cette aventure sans se poser de questions.
Mais pourtant, au fil de vos nouvelles, Gilles Archambault, c'est « on ne peut plus la vie ». C'est « on ne peut plus ça ». Par exemple, signe de tendresse, voilà. Lorsque quelqu'un est dans le métro, une jeune femme pose sa main sur la cuisse de son compagnon, tout à côté de la banquette, un pouce-pouce dans lequel dort un bébé. Ce spectacle devrait me rasséréner. L'effet est tout contraire. Il n'est pas fréquent que la vie se manifeste de si douce façon. Le rappel de moments de bonheur me plonge dans le plus complet désarroi. Une seule solution, descendre à la prochaine station.
Oui, ça, je l'avais oublié, celle-là. Mais donc, je serais tout à fait d'accord. Moi, je souhaite terminer ma vie. Ça va arriver dans un peu de temps, j'imagine, je le crains bien. Mais j'ai toujours été bouleversé par les manifestations de la beauté, de la tendresse. Les enfants, et je sais que je parle à une femme, donc on pourrait me taxer d'opportunisme, tout ça, mais je pense que le simple fait que pour moi qui suis homme et hétérosexuel, je n'ai aucun mérite à ça, mais la femme représente pour moi vraiment tout. En réalité, on est venu au monde sans y avoir été pour quoi que ce soit. Et moi, j'ai raconté dans un de mes livres, dans un récit, que ma mère avait tenté de commettre... elle a tout fait pour pas que je vienne au monde.
Oh.
Parce qu'elle était une jeune fille, elle avait 17 ans, elle vivait, et c'était très mal vu à l'époque. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours eu, par rapport à la vie, de l'admiration, si vous voulez, une admiration sans borne. J'ai toujours pensé que c'était absolument fragile.
Oui.
Et c'est pour ça que l'amitié et l'amour m'apparaissent comme des cadeaux de la vie.
Comme des piliers de la vie, peut-être.
Oui. Hein? C'est peut-être un cliché, ce que je...
Non, pas du tout.
Dire là. Mais voyez, j'ai un livre qui vient de paraître. Là. C'est paru, ça va paraître
à l'automne,
le 5 juin. Bon, ça s'appelle En toute reconnaissance. Et dans ce livre-là, je parle des écrivains. C'est un livre sur la citation littéraire. Je parle donc des écrivains qui m'ont influencé. Et ce terme, dans toute reconnaissance, j'essaie de l'appliquer en réalité à toutes les actions de ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'aimais être ironique, si vous voulez. J'aimais être méchant. Je ne me posais pas trop de questions à propos des blessures que je pouvais infliger. Bien timidement, parce que je pense que j'étais pas férocement agressif et tout. Mais maintenant, je fais très attention.
Pardon, Gilles.
Je vous en prie, non, tout simplement. Quand on vieillit, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus besoin des autres.
Oui. D'ailleurs, vous avez une phrase sur la mémoire, à un moment donné, qu'il faut que je retrouve, lucidité redoutable, où vous dites... je vais la retrouver, parce que là, je ne voudrais pas passer trop de temps là-dessus. Mais quand vous parlez des citations... À un moment donné, je me suis dit, mais comment je vais présenter ce livre, ce recueil de nouvelles en présence de Gilles Archambault? D'ailleurs, je précise que vous n'êtes pas là parce que vous avez une jambe douloureuse, mais sinon vous seriez venu en studio et je vous en remercie.
Oui,
et c'est justement une citation que j'ai trouvée. Et c'est dans cette citation, la vôtre, enfin, ce n'est pas la vôtre, c'est de Pierre Charras dans « Bonne nuit, doux prince », ce qui commence par des points de suspension et qui dit « Alors que je faisais mes premiers pas, dans l'univers infini de la déception. » Et c'est souvent ce que j'ai ressenti dans votre livre. C'est quand même ce que vous nous proposez de lire dans, je dirais, les deux tiers des nouvelles.
L'univers
infini de la déception, ou du moins de la désespérance dans le sens pur du terme. Le manque d'espoir, non?
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Je sens le besoin de dire que c'est dans la mesure où on a de l'espérance qu'on est déçu. J'espère avoir jusqu'au dernier souffle de l'espérance, savoir trouver, ce n'est pas parce qu'une chose vous échappe qu'elle n'est pas belle. En un mot, si vous marchez avec difficulté, j'ai connu ça l'an passé, parce que un problème très important à la jambe, je me posais la question, est-ce que je vais pouvoir marcher de nouveau?
C'est une de vos attentes, un espoir.
C'est ça. C'était une des périodes les plus désespérantes de ma vie. Et c'est pendant cette période-là que j'ai écrit ce livre pour lequel vous me posez des questions. Je voulais bien avoir de l'espoir, mais je ne pouvais pas en avoir. Je ne pouvais pas en avoir parce que, tout en me disant, pendant que je vous parle, j'ai devant moi deux photos sur le mur de la femme qui a partagé 52 ans de ma vie.
Oui.
Ça, c'est une chance inouïe que j'ai eue. Il se passe rarement une nuit sans que, pendant quelques instants, je la revois. Ça ne veut pas dire que j'ai été un mari absolument idéal, mais je dis, j'ai eu cette chance-là dans la vie. Je voulais écrire, j'ai écrit. J'ai eu le don de pouvoir m'extasier devant des compositeurs de musique, devant le jazz, devant la peinture. C'est toute chose. C'est pour ça que je suis triste, en un mot, dans la mesure où j'ai été heureux. D'avoir été heureux nous console parfois de l'avoir été, mais en même temps peut contribuer à nous désespérer. Moi, l'une des choses qui gouverne ma vie, c'est Stendhal qui dit dans Vie d'Henri Brûlard, « Je n'écris que pour 100 lecteurs de ces gens point moraux, malheureux, point, je ne sais plus, à qui je voudrais plaire. » Je pense, quand on écrit vraiment pour des choses qui sont essentielles, on sait très bien qu'on n'écrit pas pour tout le monde. On écrit pour ceux de nos lecteurs qui vont pouvoir s'émouvoir aux mêmes choses que soi. C'est pour ça, moi qui n'aime pas les foules. Pendant 30 ans, j'ai fait des entrevues au Salon du Livre de Montréal. Et il y a toujours eu dans les salons du livre ces moments où vous êtes derrière une table et puis vous attendez quand quelqu'un veuille bien vous faire signer un livre. Ça peut être épouvantable, ça l'a été au début, mais très rapidement, je me suis rendu compte que les gens qui s'approchaient de vous, il y en avait parmi eux qui avaient des réflexions, qui avaient des commentaires, qui allaient tout à fait dans le sens que vous avez souhaité pendant que vous avez écrit. Et à ce moment-là, on se dit, ben, c'est peut-être pas important ce que j'ai fait, mais au moins, ça s'adresse à quelqu'un qui ressent la vie, qui reçoit la vie comme moi.
D'ailleurs, vous faites dire à une femme, un de vos personnages, « Je ne pourrais pas écrire si je ne connaissais pas ceux qui me lisent. » Il y a beaucoup de vous là-dedans, non?
Oui. Oui, il peut m'arriver d'imputer à un narrateur des choses que je ne ressens pas moi-même, mais c'est plutôt rare.
Mais c'est ça. Écoutez, Gilles Archambault, je suis purement et simplement navré que le temps soit passé si vite. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose?
Ben, allez-y.
C'était pas du tout prévu dans ma feuille de route. Je vous proposerais qu'on se laisse l'espace de quelques secondes, le temps d'une pause autoproduction, et ensuite on se retrouve et on poursuit la conversation. Est-ce que ça vous irait?
Bon,
si vous ne raccrochez pas.
Moi, ça va pas durer plus de 15 minutes.
Oh non.
Oh, bon, c'est parce que il y a quelqu'un qui va m'attendre en bas.
Et promis juré. Okay, promis juré. Ne raccrochez pas, je vous retrouve tout de suite.
Okay.
Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, Gilles Archambault, je vous ai demandé et vous avez généreusement accepté qu'on poursuive un petit peu cette conversation. C'est vrai que vous êtes bavard. Est-ce que les gens solitaires sont des gens bavards, Gilles Archambault?
Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, pour moi, c'est simple. J'ai toujours été, moi, ce qu'on appelle un timide.
Oui.
Mais ce qui m'a aidé à l'être un peu moins, c'est que j'ai fait de la radio.
Oui.
Et il y a, je ne sais pas si vous venez sûrement de Wilfrid Lemoine, qui est un animateur. C'est vrai que vous êtes peut-être arrivé au pays.
Mais je suis arrivé il y a 30 ans, moi. Et j'ai passé 17 ans à Radio-Canada, mais je pense que ce n'était pas à mon époque.
Ah bon. Wilfrid Lemoine, vous voyez, a dû prendre sa retraite de Radio-Canada, je peux me tromper là, mais vers 1985 à peu près.
Oh, juste avant que j'arrive.
Bon, c'est ça. C'était l'un des meilleurs communicateurs que j'ai connu. Il était en plus un homme d'une grande culture, écrivain lui-même, et c'est lui qui m'avait dit, tu devrais, parce qu'on se connaissait beaucoup là, évidemment, tu devrais faire de la radio, tu as tout pour ça. Comme j'étais réalisateur et que la radio n'est pas la télévision, que ça suppose des moyens très, très simples, c'est comme ça que, petit à petit, je me suis mis à, comme on dit vulgairement, à communiquer. Mais c'est que la communication, quand elle est le moindrement intime, ressemble beaucoup à la littérature, au genre de littérature qui m'intéresse, moi, qui est une littérature qui compromet, une littérature du jeu, mais pas un jeu complaisant, un jeu qui s'interroge, un jeu qui est une recherche d'une vérité, tout en sachant que cette vérité-là, on ne l'atteindra jamais, mais le voyage en vaut la peine.
Oui, c'est et voyez-vous, Gilles Archambault, j'avais écrit que ce livre, ce recueil de nouvelles, c'est vraiment une succession d'ailleurs de jeux.
Oui.
Et qu'on est touché parce que la plupart du temps, c'est un miroir, quoi.
Ah ben oui. Non, écoutez, à certains moments, l'an passé, là, parce que certaines des nouvelles ont été écrites, encore une fois, en février, mars et avril 2017, j'étais complètement découragé.
En douleur aussi.
À quoi la vie sert et tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les textes courts.
Oui.
Textes courts dans lesquels on n'a pas besoin d'épiloguer. C'est un peu, on pourrait me dire, si on n'aime pas ce que je fais, que c'est de la facilité, mais moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une recherche. Quand dans le genre court, la moindre bévue apparaît. C'est comme un bouton sur le nez, là.
Absolument. Absolument. Oui. D'ailleurs, je voudrais, si vous me le permettez, puisque vous êtes encore là, que je lise un extrait, moi, qui m'a... Ben, c'est pas un extrait, c'est une de vos nouvelles. Elle se résume à « dealing » et non, ce n'est pas de la facilité et les gens vont l'entendre. Ça s'appelle « livre ». Vous allez comprendre pourquoi ça m'a fait mal. Le soldeur vient de quitter l'appartement. Il a dû emporter une bonne centaine de livres. Pourquoi ce délestage ? Je n'entrevois pas de déménagement, je n'ai pas besoin de la somme qu'on vient de me remettre. Mais alors, me demande ma fille, je ne sais quoi lui répondre. Si je me laissais aller, j'évoquerais peut-être des promesses non tenues, des atermoiements. Les livres, ces témoins de ma vie. J'ai raison de me taire. Ma fille me donnerait tort. Et là, vous parlez à une fille envahie de bouquins. Je suis incapable. Tu sais, parfois, je commence à faire un tri, puis je suis pas capable, et je les remets.
Bien, écoutez, je vais vous faire une réponse passe-partout.
Allons-y.
C'est peut-être parce que vous n'avez pas mon âge, 84 ans. Et moi, je me suis délesté dans la vie, là, il y a quelques mois, d'un certain nombre de livres. J'avais une discothèque de 6000 CD et je m'en suis débarrassé d'à peu près 4000. Je me suis défait de 3 ou 4 tableaux. Okay? Tout simplement parce que c'était en relation avec le nombre d'années que très probablement il me restait à vivre. Et en même temps, c'était pour faciliter la tâche à mes enfants. C'est pas pour rien que dans la nouvelle, je m'adresse à ma fille. J'ai une fille et un garçon, moi, qui sont des enfants évidemment merveilleux. Je peux pas développer ça, vous savez ce que je dirais. Mais pour leur facilité, parce qu'il n'y a rien de pire que... Rien, tout est pire, en tout cas. L'une des choses les plus contraignantes dans la vie, c'est quand on doit se défaire de choses. Parce que, de toute manière, les choses vont nous échapper. On va les garder dans la tombe, on n'emporte rien. On n'emporte rien. Donc, c'est tout ça... Tout ça colorerait, si vous voulez, ma réaction par rapport à la vie. Tout est transitoire. Et évidemment, quand on est, on sait déjà que notre mort est inscrite quelque part, on s'en doute, mais le provisoire prend de plus en plus de place dans notre vie, chez moi en tout cas. Et c'est le genre de texte que je peux écrire parce que c'est ça qui m'habite. Plus j'avance dans la vie, plus j'aime des écrivains pour qui la littérature n'est pas un jeu, n'est pas un amusement. C'est pour ça que j'aime de plus en plus les diaristes. J'aime les textes personnels.
Oui, je comprends.
Ça, c'est une réponse que...
Non,
j'en suis sûr.
Oh, mais regardez, moi, je suis sûr que tout le monde est accroché à vos mots comme je le suis moi-même. J'ai envie de vous dire quelle sagesse. Je voudrais qu'on finisse...
Vous voulez que je fasse le compliqué? Je ne crois pas en la sagesse et surtout, je ne m'attribue pas cette sagesse-là. J'essaie si vous voulez, d'être le plus fou possible.
Ça fait rien. Laissez les autres le faire.
Oh oui, alors, je suis pas là pour vous faire des leçons, bien au contraire.
Alors, les femmes, vous nous l'avez dit un petit peu plus tôt, dans la dernière demi-heure, les femmes, hein, ça a été très important dans votre vie et le peu... Bon, le peu, non, c'est pas vrai. Le début de la nouvelle qui s'appelle « Les femmes », c'est une de ces phrases lapidaires qui sont d'une lucidité terrible que vous avez dans chacune des nouvelles de ce recueil. Je rappelle le titre à peine, « Un petit air de jazz » signé Gilles Archambault, avec qui je vais bientôt conclure. Et cette phrase, ça dit « Pour peu qu'on vive longtemps, la mémoire ne sert qu'à nous attrister ». Ça, c'est pas vrai, hein, Gilles?
C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Chez moi, vous savez, même un souvenir agréable et dans une vie en a, je n'ai pas été affligé de malaise constant. J'ai toujours pu marcher, faire une vie normale. Mais le simple fait que vous ne pouvez plus ressentir des choses, ça revient comme une sorte de, j'allais dire presque de reproche d'un bonheur enfoui qui n'est plus possible. Et vous découvrez, par exemple, quelqu'un pour la première fois, c'est vrai en amitié et en amour, c'est une chose que vous êtes ébloui si la personne que vous avez rencontrée, si vous avez cru voir en elle ou en lui une sorte d'espoir. Eh bien, cette personne que vous connaissez depuis 40, 50 ans, par exemple, n'est plus la personne que vous avez connue quand vous aviez 25 ans. Et elle non plus n'est pas. Donc, c'est consolant et en même temps, ça ce côté triste qu'ont la plupart ou tous les souvenirs. Parce que les souvenirs nous rappellent des choses. Et nous, si ce sont des souvenirs qui ont été importants pour nous, c'est d'autant plus, j'allais dire, grave, d'autant plus incommodant que ça vous empêche de vivre au présent. Même si j'avance dans la vie, encore une fois, j'ai 84 ans et je suis de plus en plus convaincu par le carpe diem des auteurs latins, ça c'est Horace qui avait dit ça, il faut prendre la joie le jour même.
Oui.
Parce que
le moment présent,
le lendemain, ça ne serait plus possible. Et on peut revoir. Il y a des êtres qui n'aiment pas le souvenir. Moi, j'aime les souvenirs, même ceux qui sont douloureux.
Oui. Encore une fois, il faut aimer le mal que nous fait la vie, de temps en temps.
Oui.
On se laisse là-dessus, Gilles?
Oui.
Gilles Archambault, je vous remercie tellement. Je ne voudrais pas faire attendre trop la personne qui vous attend en bas.
Oui. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment, de votre part, c'est un très, très beau geste. Et je vous en suis reconnaissant.
Vous me touchez beaucoup, Gilles Archambault. Merci. Je voudrais rappeler à peine un petit air de jazz. Et vous serez déjà parti, mais sachez que je vais en lire un extrait un peu plus long quand vous aurez raccroché le téléphone. Et j'ai choisi la nouvelle qui s'appelle « Bravoure ».
Bon, OK, tant pis pour vous.
Merci Gilles Archambault.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Ah, Gilles Archambault, je voudrais préciser qu'il n'y a pas que ce recueil de nouvelles-là. Vous pouvez en trouver plein d'autres via le SQLA ou par Inca. Il y a, par exemple, Un après-midi de septembre, ça c'est un récit. Il y a un roman de Gilles Archambault, Les choses d'un jour, ou d'autres nouvelles, comme Combien de temps encore, Comme une panthère noire, Courir à sa perte, ça c'est un roman. D'où Dément aussi, ça c'est un autre ouvrage de l'ami Gilles Archambault avec qui je viens de parler. Une enfance bleu, blanc, rouge, ça c'est Alinka. Un homme plein d'enfance, un roman signé également Gilles Archambault. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le fait d'avoir lu ce recueil de nouvelles et d'avoir eu la chance de faire cette entrevue avec Gilles Archambault, j'ai envie d'aller me procurer absolument tout ce que je peux trouver de lui. Écoutez, il a signé à peu près une quarantaine d'ouvrages, alors il n'y a pas que le jazz dans la vie de Gilles Archambault. Voici un extrait. C'est une des nouvelles que j'ai trouvées dans à peine un petit air de jazz. Celle-ci est fait un petit peu plus qu'une page, parce qu'elles font toutes quasiment une page, et ça s'appelle Bravoure. Vous allez voir, ça part léger, très léger, mais il y a l'après. Bravoure, une journée écrasante de juillet. Sur la colline parlementaire, des touristes s'agglutinent devant le monument en hommage à Henry Harper qui, en 1901, aurait sauvé la vie d'une patineuse sur la rivière des Outaouais. Antonin s'en approche, il a chaud, il craint l'insolation. Pourquoi a-t-il tenu à visiter par un temps aussi torride une ville qui l'indiffère? D'accord, il accompagne sa fille qui s'y installera en septembre. Chloé a même été surprise qu'il s'offre pour les voiturer, elle et son fiancé. Ils doivent être en train de déjeuner au restaurant Wilfrid's du Château Laurier. Un caprice de Chloé, elle aime les traditions, comme pour mieux s'en manquer. Ce Henry Harper savait-il qu'il deviendrait une sorte de héros dans une ville preste à s'enorgueillir de mille façons? Un si petit patelin, élevé au statut de capitale nationale. Pas étonnant qu'on y trouve un peu partout la célébration ridicule d'une grandeur imaginaire. Il y a une vingtaine d'années, alors qu'il était vaguement journaliste, Antonin a connu Solange, une fille de la région qui suivait des cours de littérature anglaise à l'Université d'Ottawa. Sûrement la période la moins malheureuse de sa vie. C'est un peu la raison qui l'a motivé à proposer à Chloé cette petite virée à Bytown. Il aura 60 ans dans un mois. De plus en plus, le visite des tentations de revoir le passé, le sien surtout. Il se conduit depuis quelque temps comme si tout autour de lui menaçait de s'écrouler. Il ne se sent pourtant pas guetté par quelque maladie que ce soit, hanté par l'idée de la mort, certes plus que jamais, mais est-ce une raison? Les êtres qu'il croise ont tous un degré divers cette préoccupation. À ce qu'il semble, peu sont troublés, comme il l'est en ce moment, par cette angoisse qui ne le quitte pas. Comme s'il était sûr que la mort viendrait cet après-midi. Deux couples dans la jeune vingtaine se gaussent de ce Henry Harper. Pourquoi n'a-t-il pas laissé se noyer cette patineuse assez sotte pour se hasarder sur une couche de glace trop mince? Les filles protestent pour la forme. Un des garçons, un blondinet à l'allure scandinave, dit qu'elle aurait bien aimé se lancer dans la rivière aujourd'hui. Défense de la sortir de là. Solange parlait souvent de mettre fin à ses jours, sur un ton plutôt comique. Au moindre coup malheureux, elle prétendait qu'elle se flamberait la cervelle. Il était clair qu'elle n'en ferait jamais rien. Pour commencer, la vie lui était douce. Solange était plutôt belle, savait plaire, faisait de brillantes études. Antonin n'avait jamais compris qu'elle s'intéresse à lui. Il avait même été question brièvement d'une vie commune. Projet non réalisé puisqu'elle s'était amourachée d'un joueur de tennis qui l'avait convaincue de le suivre au Texas. Plus aucune nouvelle de Solange. Jusqu'à ce qu'il apprenne, sur Internet, que l'athlète avait été dévasté au début de 2010 par le suicide de sa femme, Solange. Elle avait tardé à mettre sa menace à exécution. Avait-elle au moins eu le temps d'être un peu heureuse, elle, la fille la plus rieuse qu'il eût connue? Antonin était entré en communication avec Tom, un garçon sympathique qui s'exprimait dans un anglais teinté d'expressions vernaculaires et qui répétait sans cesse que Solange était « a wonderful girl, so loving ». De quoi était-elle morte? Une balle en plein cœur tirée du colt qu'il gardait dans le haut d'un garde-robe. Voilà que Chloé s'approche. Elle et Tadeo forment un très beau couple. Les deux ont des corps souples et se meuvent avec l'aisance que donne la conscience de cette beauté, justement. Sa fille est blonde. Tadeo a le teint olivâtre des Méditerranéens. Antonin ne doute plus qu'il aura l'audace, vers minuit, d'avaler les comprimés qu'il a toujours sur lui depuis des années. Le seul geste de bravoure dont il se sait capable. Thank you. On a fait un petit peu comme dans l'univers de Gilles Archambault, à l'émission des livres pleins les oreilles. Aujourd'hui, on a mêlé, on a marié le jazz à l'écriture. On va maintenant quitter l'univers de Gilles Archambault pour se plonger dans celui de Philip Roth. Je voudrais d'ailleurs tout de suite remercier Chantal Guy de La Presse parce que je vais utiliser de larges extraits de son papier, un papier sorti le 28 mai dernier, qui vont alimenter ce segment de l'émission, un dossier riche et complet donc sur Philip Roth, qui nous a quittés il y a maintenant quelques semaines. Chantal Guy qui écrit... 6 ans après avoir annoncé sa retraite de l'écriture, Philip Roth s'est éteint mardi à l'âge de 85 ans. Celui qui a remporté à peu près tous les plus prestigieux prix littéraires à l'exception du Nobel qu'on lui prédisait depuis des années laisse derrière lui une œuvre incontournable qui a marqué de façon indélébile la littérature américaine à l'image de la tache sur la robe de Monica Lewinsky qui a inspiré l'un de ses romans les plus célèbres. Pourquoi était-il considéré comme l'un des plus grands écrivains vivants ? Nous avons posé la question à Jean-François Chasset et à Bertrand Gervais, tous deux professeurs de littérature à l'UQAM et grands lecteurs de Philip Roth. Ce dernier disait « Si vous vous contentez de faire de vous, dans un livre, l'innocent indigné que vous êtes dans la réalité, vous n'avez pas d'histoire et vous ne pouvez pas l'écrire. Pour que les choses deviennent intéressantes, vous devez vous faire passer pour Raskolnikov, le héros de Crime et Châtiment de Dostoïevski. C'est un jeu, c'est du théâtre. Vous jouez à vous compromettre et ainsi, d'une certaine façon, vous vous rapprochez de votre complicité. Quelque chose vous a fait le complice de ce qui vous est arrivé et par la fiction, vous essayez de savoir quoi. » Voilà une déclaration qui résume assez bien le jeu auquel s'est prêté Roth dans son œuvre en usant régulièrement de doubles et d'alter-ego et en brouillant les frontières entre le réel et la fiction. Non sans s'attirer que parfois quelques ennuis, nous rappelle Chantal Guy alors qu'il était un homme plutôt solitaire et pas très adepte des cercles littéraires. Pour Bertrand Gervais, Roth anticipait depuis les années 60, par sa posture d'écrivain, le courant majeur de la littérature contemporaine, l'autofiction, qui est devenue la forme narrative par excellence. Jean-François Chasset, comme Bertrand Gervais, a découvert Roth très jeune avec Portnoy et son complexe. En 1969, la parution de ce livre-là, qui est d'ailleurs disponible en audio adapté au SQLA, et c'est le roman qui l'a mis sur la map, comme on dit. Et les grands thèmes de son œuvre, l'identité juive, la société américaine et la libido masculine, allaient s'implanter. Quand j'ai lu ça à 16 ou 17 ans, c'était quand même un choc, se souvient Jean-François Chasset. À cause de tout ce qui concerne la libido masculine, présentée de façon tout à fait burlesque, mais aussi pour la découverte de la société juive américaine de l'intérieur. La question de l'identité est omniprésente chez Roth. Qu'est-ce qu'être juif ? Qu'est-ce qu'être américain ? Est-ce compatible ? Et il y a aussi tous ces romans qui parlent d'Israël et de la Palestine, poursuit-il. Roth est un exemple intéressant de la singularité de la littérature, parce qu'il n'y a pas un seul ouvrage d'historien, de politologue ou de sociologue qui m'a fait comprendre à quel point est complexe la tension entre Israël et la Palestine, comme je l'ai compris dans les romans « Opération Shylock » ou encore « La contre-vie ». Elle nous rappelle ici, Chantal Guy, que Roth est né en 1933 au sein d'une famille juive de la classe moyenne à Newark, dans le New Jersey, qui sera le décor de plusieurs de ses romans. Roth qui a construit une œuvre complexe, brillante, férocement drôle, impitoyable même, visionnaire par moments, qui l'a placé au firmament des lettres américaines pendant la deuxième partie du XXe et même au XXIe siècle. À sa mort, le New York Times l'a carrément désigné comme l'un des derniers grands mâles blancs avec Saul Bellow et John Updike, ce qui fait rire un peu Jean-François Chasset. Pour moi, c'est un grand satiriste, son style est très précis et en même temps, il a le couteau entre les dents, plus macho que misogyne selon lui. C'est clair que c'est un vieux macho blanc et là, il entre dans la catégorie des dead white males. On va pouvoir le lire convenablement dans les universités de la Nouvelle-Angleterre, ironise Gervais. Très clairement, en termes de relations hommes-femmes, il était extraordinairement misogyne et plutôt traditionnel. Mais on pourrait dire qu'il était aussi méchant avec les hommes qu'avec les femmes, et c'est dans ce sens-là, sa misogynie est aussi une misanthropie généralisée. C'est un grand analyste des relations humaines, capable d'une dissection très méticuleuse et avec cela beaucoup d'ironie. Le thème de la mort a hanté les dernières œuvres de Roth, qu'on pense à La bête qui meurt, disponible au SQLA, Le rabaissement ou son tout dernier roman, Le tragique Némésis, également disponible, qui a sonné la fin de son métier d'écrivain annoncé officiellement dans la presse. Après avoir disséqué pendant plus de 50 ans la société américaine, son pessimisme était particulièrement en forme, disons, depuis l'élection de Trump. Il a refusé le parallèle qu'on a fait avec son roman « Le complot contre l'Amérique », paru en 2004 et aussi disponible au SQLA, où il imaginait en 1941 la victoire de Charles Lindbergh, président du comité America First contre Roosevelt aux élections. Au Monde, il avait déclaré « Lindbergh était très à droite, c'était un raciste authentique et un suprémaciste blanc. Mais comparé à Trump, c'était Einstein. » Lindbergh était aussi un authentique héros doublé d'un ingénieur, quelqu'un de vraiment brillant et de distingué. Trump n'est personne, c'est un pur voyou odieux et ignorant. Alors on dirait presque que Philip Roth s'est retiré au moment où la réalité a commencé à dépasser la fiction, conclut Madame Guy dans la presse, et c'est cette constatation dite au New York Times en janvier qui sonne quasiment comme un aveu de défaite. Il a déclaré, Roth, « Personne n'a pu prévoir une Amérique comme celle dans laquelle nous vivons actuellement. » Quelques nouveautés en rafale pour terminer cette émission. Affaires privées, c'est de Marie Laberge. Un petit résumé ici, merci Babelio. Quand Rémi Brisson, le directeur de l'escouade des crimes non résolus, affecte Vicky Barbeau à une enquête sur une mort fort peu suspecte, il le fait pour des raisons personnelles. Il est incapable de refuser quelque chose à la mère de cette jeune fille de 15 ans trouvée morte dans un boisé après avoir pris une dose mortelle de somnifères. Mais un suicide même mystérieux quant à ses causes profondes, même impossible à accepter, ne se métamorphose pas en meurtre pour soulager des parents dévastés. Et quand Vicky s'aperçoit qu'en s'approchant des témoins de la vie de cette magnifique Ariel, elle s'expose à revoir des gens qu'elle a relégués au passé, l'enquête prend des allures de cauchemar. Je vous rappelle que c'est le troisième roman à saveur policière de Marie Laberge, ça s'appelle « Affaires privées ». Des affaires privées qui sondent avec acuité la nature humaine à travers des personnages aux parts d'ombre troublantes de vérité, campés avec la force et la précision qui la caractérisent. Avec un grand A, oui, c'est un titre qui vous rappelle quelque chose, et oui, c'est de Jeannette Bertrand. Je me sens pris à la gorge, étouffé par la culpabilité. J'étais malheureux parce que je ne savais pas qui j'étais. Maintenant que je le sais, c'est pire. Nous sommes avec Ariane et Simon, 40 ans, qui vivent en banlieue avec leurs deux enfants. Ils ont tout pour être heureux. L'arrivée de Larry fera basculer la petite vie bien rangée de Simon et de ses proches. Comment réagira Ariane devant l'infidélité de son mari, elle, si amoureuse de lui, depuis 15 ans ? Tout comme elle l'avait fait pour sa série de dramatiques « L'amour avec un grand A », Jeannette Bertrand affronte les tabous et ose en parler. C'est une histoire moderne et audacieuse. C'est du Jeannette Bertrand tout craché. Il a fait partie de ces chanteurs qui ont bercé le cœur de toute une génération. Gérard Lenormand vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Je suis né à 20 ans ». Où il nous parle des secrets de famille, en nous disant « Les secrets de famille, on le sait, sont des fardeaux dont on ne guérit jamais. » Il est né en 1945, Gérard Lenormand, dans un village de Normandie. Il est un fils de Bosch. Il l'ignore. Comment le saurait-il, puisque sa mère lui ment. Pire, elle méprise cet enfant de la honte qui lui rappelle à chaque minute la faute commise. « J'étais programmé pour ne pas exister. Seule la musique, toutes les musiques, diffusée à la radio, comble un désert affectif qui a bien failli avoir sa peau. L'année de ses 10 ans, son cœur se met à battre et son imagination fertile s'envole. Sa mère se marie. Il va peut-être enfin goûter aux joies de la famille. Avant de devenir le chanteur populaire que l'on sait, l'adolescent rejoint des petits orchestres et puis des plus grands. Le succès phénoménal viendra avec la ballade des gens heureux. Il, les matins d'hiver, Michel, quelque chose et moi. Pour le bonheur, ce sera une autre histoire. Cet attardé sentimental, encore hanté par le mensonge et la trahison, tente de rattraper le temps perdu dans ce livre « Je suis né à 20 ans ». « La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la saison régulière. Ensuite, ce seront des reprises qu'on vous proposera tout l'été. Je voudrais remercier mes invités. Il y a eu, si je n'ai pas perdu ma page, il y a eu bien sûr Gilles Archambault. Il y a eu également Jean-Daniel Aubin. Et puis, j'ai rendu un hommage à Philip Roth. On va recevoir Luc Mercure certainement à la prochaine émission. Merci Mathieu Tessier et merci à vous d'être là. Bonne lecture, mes amis.